Deutsche Welle Allemagne Magazine.
Peut-être ces malheureux seront-ils très vite oubliés.
Extrait de Ceux de 14 de l'écrivain français Maurice Genevoix.
Tais-toi, écoute, ils seront les morts du début. Ceux de 14, il y en aura tellement d'autres. Qui sait même, puisque la guerre décidément s'accroche au monde comme un chancre, qui sait s'il ne viendra un temps où le monde aura pris l'habitude de continuer à vivre avec cette saleté sur lui.
Pour nous, 100 ans, c'est beaucoup. Mais au niveau historique, 100 ans, c'est rien, c'est hier.
Mais je veux dire, pour nous, c'est déjà de l'histoire, justement. De l'histoire générale, pas de l'histoire personnelle, quoi. C'est, les poilus. C'est pas mon grand-père.
C'est surtout une question de perception personnelle de cette mémoire. Il y aura toujours une forme de mémoire qui s'entretiendra et qui est nécessaire aussi. On doit se souvenir de ces choses-là pour pouvoir construire derrière, pour savoir s'il ne faut pas reproduire. Bon, c'est le principe de la mémoire.
C'est reparti comme en 14, série spéciale consacrée au centenaire de la Première Guerre mondiale. Après avoir planté le décor, puis découvert les tranchées, nous nous sommes penchés la semaine dernière sur l'engagement des troupes coloniales dans le conflit. Cette fois, je vous propose de nous intéresser à la mémoire de la Première Guerre en Allemagne, puis à la vie des civils à l'arrière. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition d'Allemagne Magazine. Guten Tag, bonjour à tous.
En tant qu'Allemand, on sent une certaine responsabilité de continuer cette commémoration.
Est-ce qu'on apprend la Première Guerre mondiale en Allemagne ?
On la traite, mais c'est basé beaucoup plus sur la Deuxième Guerre mondiale.
On a plutôt évoqué le début, le déclenchement de la Première Guerre mondiale. On n'est pas allé en détail dans la bataille de Verdun, par exemple. On a juste évoqué qu'il y avait cette bataille à Verdun, mais c'est tout.
Et on retrouve pour commencer les étudiants du Master Recherche Études Germaniques Sorbonne Nouvelle et leurs accompagnateurs. Vous les aviez déjà entendus lors du second volet de notre série consacrée à la Première Guerre. Ils sont toujours à Verdun et leur voyage est consacré à la mémoire. Un mot qui a beau rimer avec histoire, ces deux-là ne font pas toujours bon ménage.
Pourquoi c'est si important pour les Français et moins pour les Allemands ?
Ah bon, alors d'abord, il y a plusieurs raisons. C'est un moment d'identification pour les Français. C'est beaucoup plus facile de commémorer une victoire. Ça s'est passé surtout sur le sol français et pas sur le sol allemand.
Je pense qu'il ne faudra peut-être pas uniquement voir l'aspect de l'amitié franco-allemande, de la mémoire commune, du souvenir commun, mais pas oublier aussi tous les aspects économiques et idéologiques qui se cachent derrière une guerre.
Si aucune célébration officielle n'est prévue en Allemagne pour le 100e anniversaire de la guerre, cela ne veut pas dire qu'on ne s'y intéresse pas, au contraire. Les rayons des librairies regorgent d'ouvrages traitant de la question. Les musées organisent une multitude de manifestations à ce sujet dans tout le pays. Et les experts continuent bien sûr de débattre sur ce thème. L'un d'eux est Gerd Krumeitsch. Il est professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université de Düsseldorf, dans l'ouest de l'Allemagne. Et il comptait parmi ceux qui ont guidé les étudiants de la Sorbonne à Verdun. Entre deux visites, il a accepté de nous faire monter dans sa voiture et entre deux changements de vitesse, il s'est attaqué au concept de mémoire et à sa complexité.
On a tous une bonne volonté européenne, on veut tout commencer à comprendre l'autre, mais on reste très largement imbriqué dans le souvenir de sa propre nation. Et il ne s'agit pas pour moi d'abolir, ça ce serait impossible de toute façon, mais d'y ajouter un morceau de compréhension. Et cela veut dire d'intérêt pour l'histoire des autres et pour une compréhension du fait que les autres nations, voire l'Allemagne dans ce cas, peuvent avoir un souvenir tout à fait différent d'un et du même événement. Pour moi, c'est la base même d'une bonne entente en Europe, qu'on connaisse simplement ce qui fait mouvoir l'autre.
Est-ce que vous avez l'impression qu'avec les nouvelles générations, par exemple les jeunes étudiants qui étaient là aujourd'hui,
absolument. C'est
qui ont
très
une vingtaine d'années...
C'est très bien que les générations changent et que les vieux stéréotypes soient remplacés par des nouveaux stéréotypes peut-être, mais que ce soit renouvelé de toute façon. Et les jeunes, ils sont toujours aussi dans un cadre national, mais par leurs moyens d'information simplement, ils sont transnationaux tout de suite. Ils peuvent aller partout dans le monde avec un clic. Et ça peut beaucoup nous aider à transformer aussi le souvenir quant à l'histoire. Ce qui était le présent, le vécu pour des générations de Français et d'Allemands, et maintenant pour les nouvelles générations, c'est l'histoire et c'est différent. Donc les conciliations et les compromis aussi sont beaucoup plus faciles à faire quand ce n'est plus ton vécu qui est l'histoire.
Dans ma famille, par exemple, j'ai parlé beaucoup sur la Deuxième Guerre mondiale avec mon grand-père, etc. Ma grand-mère. Sur la Première Guerre mondiale, pas du tout. Donc, je n'ai même pas recherché. Je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui a combattu ou pas.
Moi, on en a parlé, mais j'ai que un parent français, donc j'ai forcément que deux arrière-grands-pères qui ont pu le faire. Et il y en a un qui a été oublié dans son casernement, donc qui n'a pas fait la guerre. Et l'autre qui, je me suis dit, il faut que je demande à ma grand-mère, mais qui est revenu, c'est certain. Je pense qu'il devait avoir un poste plus en arrière et du coup, il n'y a pas eu ce traumatisme qui a été transmis. Du coup, c'est beaucoup trop loin. Même pour mes grands-parents, c'était loin, alors pour moi, c'est encore trop loin.
Ouais, on a du mal, je trouve qu'on a du mal à s'imaginer que c'est sa famille. Enfin, mon arrière-grand-mère, elle avait plein de frères, mais quand elle racontait la guerre, c'était plus la vie en tant que femme à l'arrière, avec les enfants et tout ça.
La vie à l'arrière, comprenez à l'arrière du front, c'est-à-dire loin des soldats, loin des combats, voici un aspect de la guerre que nous n'avons pas encore évoqué. Eh bien, il est temps. Si vous regardez sur une carte, Berlin est situé à des centaines de kilomètres de Verdun, où nous étions il y a un instant. Et Berlin, comme le reste de l'Allemagne d'ailleurs, n'a pas du tout été touché par les combats, contrairement à l'est de la France. Pourtant, la guerre y est omniprésente. Notre correspondante dans la capitale, Audrey Parmentier, a pu le constater en montant dans un bus. Une excursion organisée par l'association Vidéo Bus Tour et le Centre fédéral pour l'éducation politique à l'occasion des commémorations du début du conflit. Mesdames, messieurs, en voiture.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser besonderen Tour.
Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Alexander Vogel. Grâce à ces trois écrans, nous allons essayer de vous faire revivre la Première Guerre mondiale telle qu'elle a été perçue ici à Berlin.
Den ersten Weltkrieg in Berlin erfahrbar machen wollen. Die Situation im Jahr 1914.
En 1914, Berlin est une ville en pleine effervescence. Depuis le début de l'Empire allemand, elle n'a cessé de se transformer pour devenir une métropole resplendissante, un point d'attraction pour toute l'Europe. L'année 1913 a été une année de fête. Il y a eu l'anniversaire de l'empereur, l'inauguration du stade allemand et le mariage de la fille unique de l'empereur Guillaume II le 24 mai. Pour la dernière fois, mais personne ne peut l'imaginer, la vieille Europe se réunit ici à Berlin.
C'est la dernière fois que les têtes couronnées se retrouvent, car un an plus tard, le 28 juin 1914, l'héritier du trône d'Autriche, François Ferdinand, et sa femme sont assassinés. Le 1er août, l'empereur Guillaume II donne l'ordre de mobilisation générale.
Man will nicht dulden, dass wir in entschlossener Treue.
Das geschieht natürlich.
Suite à cet appel, des marches triomphales ont lieu dans tout Berlin. Mais c'est dans le sud de la ville que défilent des milliers d'étudiants enthousiastes à l'idée de partir au front. Et ces marches sont rythmées par une chanson, la Garde du Rhin.
Et les femmes ? Les femmes sont angehalten, les Männer von der Heimatfront zu unterstützen.
Les femmes, elles, soutiennent les hommes qui partent à la guerre. Et il existe même ici, au numéro 5 de la Poststraße, une curiosité de la Première Guerre, le dépôt central des dons amoureux. C'est un endroit où la Croix-Rouge collectait toutes les lettres et les cadeaux destinés aux soldats partis au front et qui a vu le jour dès le 2 août. Le
2 August, sozusagen, eingerichtet. So, das ist die.
Nous sommes ici dans la Wilhelmstrasse. C'est là qu'était le bureau chargé des questions d'alimentation. À la fin de l'année 1914, alors qu'on pensait que les soldats seraient tous revenus du front, il a fallu se rendre à l'évidence. Ce n'était pas le cas. Et Berlin, une ville peuplée de millions d'habitants, n'était pas préparée à ce que la production d'aliments soit destinée à la guerre pendant aussi longtemps. La farine et le pain étaient très rares. Cette situation de manque atteint un point culminant lors de l'hiver
1916-1917. L'année 1916 marque un tournant dans la guerre à Berlin et dans toute l'Allemagne. L'enthousiasme des débuts a cédé la place à la famine et au désespoir, et les appels pour la paix se multiplient.
Prolétaires de tous les pays, unissez-vous, à bas la guerre, à bas le gouvernement.
Celui que l'on vient d'entendre est une reconstitution du discours le 1er mai 1916 de Karl Liebknecht, cofondateur avec Rosa Luxembourg du Parti communiste allemand. L'évolution des mentalités est la même dans les milieux de l'art et de la culture.
Les intellectuels ont d'abord accueilli la Première Guerre mondiale avec enthousiasme. Au théâtre allemand, à l'été 1914, de nombreuses pièces patriotiques figuraient au programme. Mais comme partout, cette ambiance se transforme complètement en 1916. Les pièces qui critiquent la guerre envahissent les théâtres. Il n'y a plus de matériel. La plupart du temps, les scènes se déroulent entre deux poteaux. Les lieux de divertissement apolitiques comme le Friedrichstadtpalast ont continué leur spectacle comme si de rien n'était. Mais cela change dans les deux dernières années de guerre car il n'y a plus rien à manger. La ville est comme paralysée.
70 000 personnes sont mortes de faim à Berlin pendant le conflit, 700 000 dans toute l'Allemagne.
Merci à Audrey Parmentier de nous avoir emmenés dans les rues de Berlin à la découverte de la première guerre vue de l'arrière. Merci aussi aux étudiants de la Sorbonne qui sont intervenus en première partie. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. La fin de l'été approche, la fin de notre série aussi. Vous avez donc encore une semaine pour nous faire part de vos réactions sur nos émissions. L'adresse où nous envoyez votre courriel, c'est français@dw.de. C'était Constance Von Kötze au micro. Bonne semaine à tous, à la prochaine et tchuss.